Bonjour, je suis Pascal Solière et c'est l'épisode 29 de ITcast du 1er avril 2016. C'est pas une blague, ça a été annoncé à la build. Ubuntu arrive dans Windows 10 et on vous explique tout avec Stanislas. Petite revue d'actualité ensuite autour du cloud et des containers, évidemment de Docker. Tout de suite, on retrouve Stanislas et on vous explique tout sur cette histoire de Linux dans Windows. Eh bien, bonjour à tous, je suis aujourd'hui en ligne avec Stanislas. Salut Stanislas, ça va bien ?
Bonjour Pascal, oui, ça va très bien.
Donc on est vendredi 1er avril.
Donc, et ce n'est pas une blague.
Voilà, c'est pas une blague. Et puis je crois qu'aujourd'hui, c'est même pas la peine de faire des blagues pour avoir des trucs assez originaux et rigolos à raconter. Oui. Donc on va vous parler de la build un petit peu pas mal, et surtout on va surtout s'intéresser à une actualité de la build qui nous intéresse, et puis après on va parcourir un petit peu quelques infos hein, que tu as trouvé Stan sur le cloud.
Oui, pas mal. Comme d'habitude, hein, on est en pleine évolution sur Azure, enfin en évolution perpétuelle pour être précis, et donc on a pas mal d'annonces qui sont encore tombées ces voilà. Deux dernières semaines.
Puis on parlera un petit peu de, on terminera avec nos amis de Docker et puis nos informations locales, nous françaises, Cocorico et tout ça avec MS Experience, puisque c'est des choses qui ont bien démarré et qui sont en cours. Mais tout de suite, Stan, on a une bonne nouvelle qui a été annoncée hier, une bonne grosse nouvelle qui est tombée un petit peu par surprise. Hein, nous, on n'a pas plus d'infos que tout le monde et ça nous est un petit peu tombé dessus aussi par surprise hier. C'est l'annonce de Ubuntu dans Windows. C'est quand même
c'est
quelque chose.
Oui, comme ça, ça peut paraître ouais. un petit peu surprenant. Hein.
Alors,
donc on n'est pas en train de parler de machine virtuelle. Hein. On pourrait penser à des retours, un retour de SFU. Alors SFU, seuls les plus anciens d'entre nous et les plus ouverts à l'époque se rappelleront de SFU. Alors Pascal, du coup, tu es légitime là-dessus. Hein.
Ouais, alors SFU, c'était Services for Linux, for Unix, pardon. Tu vois, le lapsus déjà.
Ah oui, lapsus, révélateur.
Services for Unix. Alors, c'est quelque chose qu'on installait dans Windows à une époque, puis après, ça a été intégré sous différentes formes. Ça s'est appelé également Interix, et puis ça s'appelait finalement SUA. Je ne sais plus ce que veut dire SUA, d'ailleurs. En fait, c'est quoi cette histoire de SFU, SUA, Interix, etc. C'est ce qu'on appelle un sous-système POSIX, qui était dans Windows depuis très longtemps. Et puis on pouvait rajouter par-dessus des composants du type des applications POSIX. Donc. Alors qu'est-ce que c'est qu'un sous-système ? Ben dans Windows, si vous voyez un petit peu l'architecture de Windows, il y a un composant mode réel, enfin user mode, qui s'appelle Win32, qui est l'ensemble des API Win32 qu'on peut appeler quand on développe une application Win32 classique sous Windows. Je crois même que quand on développe des applications .NET, en fait, les API .NET, au final, elles appellent des API Win32 qui sont les API natives de Windows. Enfin, je m'avance peut-être un petit peu là-dessus, mais je crois que c'est un petit peu le principe. Win32, donc, c'est une chose, donc c'est un ensemble d'API qui sont stockés dans des DLL. Alors par API, on entend les fonctions de base de Windows, hein, je sais pas, rechercher un fichier sur le disque, ouvrir un fichier, allouer de la mémoire, ce genre de choses-là. Et donc, à côté de Win32, on avait ce fameux sous-système POSIX qui permettait de développer des applications POSIX, donc avec des API de type Unix, mais très normalisées dans le cadre de POSIX, sur Windows. Alors l'intérêt de cette chose-là par rapport à ce qu'on connaît pour faire tourner des applications Unix sur Windows, on connaît les Cygwin, hein, peut-être que tu en connais d'autres, Stan, je ne sais pas. Il y avait Cygwin, c'était la plus connue.
Ouais, c'était jamais très content d'installer Cygwin d'ailleurs sur sa machine. Mais...
Ouais. Et pourquoi d'ailleurs ? Parce que c'était pas très bien géré au niveau sécurité, au niveau mémoire et tout ça, et notamment au niveau perf aussi, puisque Cygwin traduit des API POSIX en API Win32. Donc il y a une indirection, alors que les API POSIX du sous-système POSIX était attaqué directement le noyau de Windows de la même façon que Win32. Donc c'était pas une traduction, c'était vraiment un autre sous-système à côté, donc on avait un niveau de performance équivalente. Alors on avait toujours les soucis classiques du type est-ce que mes fichiers sont case sensitive ou non, parce que c'est le cas dans Unix mais pas dans Windows, etc., ce genre de choses là. Mais bon, on avait des petites choses, mais c'était très basique. On avait notamment au niveau shell, on avait un KSH et un CSH, donc c'est pas ce qu'il y a de plus convivial, quoi.
Ah ouais, le conch shell, c'est bien utilisé, mais depuis, il y a des choses qui sont un petit peu plus généralisées.
Voilà, et donc on pouvait télécharger d'autres outils complémentaires, on pouvait trouver des versions de Bash qui fonctionnaient, des versions de SSH, de OpenSSH, etc. Mais bon, ça restait quand même assez confidentiel, tout ça. Et puis petit à petit, ben, ça a perdu de son intérêt, et puis avec Windows 8.1, ça a complètement disparu des radars et de Windows.
Ouais, dans 8.1, c'était... non, dans Windows 8 et 8.1, effectivement, c'est parti avec le menu démarrer, quoi.
Oh ben...
Bon, là, on est quand même en train de faire une grosse introduction qui est quand même assez longue. Tout ça pour dire quoi, Pascal?
Tout ça pour dire que ce qu'on a annoncé, là, c'est l'apparition d'un sous-système pour Linux, Windows Subsystem for Linux, donc qui est, pareil, un sous-système Linux... un petit peu de la même façon que était le sous-système POSIX, quoi. Donc on peut développer des applications Linux qui s'appuient normalement, qui s'attendent à trouver un noyau Linux dessous, et ben elles vont fonctionner avec ce sous-système Linux. Donc d'une part, on a ce sous-système, et puis le support des exécutables Linux natifs, c'est-à-dire qu'on prend le même exécutable que sous Linux, un exécutable donc au format ELF, le binaire, quoi. On le met dans Windows, on l'exécute, paf, ça marche.
Donc ça veut dire tout ce qui est apt, ssh, rsync, find, grep.
Exactement.
Sed, Python, Perl, Ruby, Emacs, GCC, enfin en gros tous les outils tout à fait classiques de la trousse à outils du développeur ou du sysadmin sous Linux.
Et donc, avec le travail s'est fait donc, en collaboration entre Microsoft et Canonical, l'éditeur d'Ubuntu, pour porter... alors je sais pas si on peut dire l'ensemble ou une grosse partie de user mode de Ubuntu, donc des commandes, lignes de commande Ubuntu sur Windows.
Alors précisons bien, là tu es en train de parler du user mode, enfin du user space d'Ubuntu, hein, et donc on n'est pas en train de parler du kernel, donc il n'y a pas de kernel qui vont booter dessous sous la forme d'une machine virtuelle Ubuntu ou autre avec un hyperviseur. On parle vraiment juste de la partie user space d'Ubuntu.
Exactement. Donc un ensemble de fichiers qui sont les commandes d'Ubuntu, dont tu as parlé.
Et là encore, on n'est pas, enfin, on pourrait se dire, dans ce cas, c'est pas une machine virtuelle en dessous, ça peut être un conteneur. Là non plus, c'est pas un conteneur en fait. On parle vraiment
de
binaire Ubuntu native.
Exactement. C'est-à-dire que Windows, lui, supporte maintenant les exécutables Linux directement nativement. Et donc, comment ça va se passer en fait aujourd'hui, hein, il faut une build insider dernier modèle avec les plumes sur le capot et tout. Et on va dans le store et on télécharge du store ce sous-système Linux. Alors je sais pas son nom, c'est Ubuntu on Windows ou quoi. Et ça vient donc avec le sous-système et les commandes. Ces commandes, elles vont aller, comme c'est une application, c'est packagé sous la forme d'un package du store Windows, ça va venir dans le profil de l'utilisateur. Et donc dans le profil de l'utilisateur, on va trouver un répertoire dans lequel on va trouver toute l'arborescence que s'attend à trouver sur le disque les applications Linux. Donc d'une part, depuis un exécutable Windows comme l'explorateur Windows par exemple, on va pouvoir voir cette arborescence dans le profil de l'utilisateur. Et d'autre part, depuis les commandes Linux, on pourra accéder au disque C, puisque par défaut elles vont être le disque C complet va être monté dans /mount/mnt directement, quoi.
Ouais, slash C, si c'est à la lettre C, slash user, slash machin, etc.
Ouais, exactement. Donc, en gros, hein, on positionne ça, alors comme ça a été annoncé à la build, on positionne ça pour des développeurs, en disant, vous allez trouver Bash, donc on a très, très fort poussé le fait que ce soit, on installe en fait un shell Bash sous Windows, alors qu'il n'y a pas que Bash, hein, il y a surtout les utilisateurs qui vont avec, c'est ça qui est intéressant.
Ouais. Et ça, l'admin... L'admin, il y a un utilitaire qui l'adore, c'est
SSH. Donc on va pouvoir scripter comme si on était sous Linux, quoi. Faire notre petit SSH, envoyer des commandes sur des machines distantes, etc.
Voilà. À noter peut-être, c'est que c'est basé ce user space Ubuntu Linux sur la 14.04 LTS, donc les long term support, et que du coup effectivement rapidement on espère, enfin je pense que ce sera mis à jour pour passer sur la dernière LTS qui est la 16.04
prochainement. Voilà. Ouais. Donc la 16.04 qui sera la prochaine LTS. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. C'est aujourd'hui, ça va être là dans les jours qui viennent, je ne sais pas si c'est encore dispo, moi je ne l'ai pas encore vu, sur les Insiders, mais donc c'est prévu pour être disponible pour tout le monde dans la prochaine version de Windows 10 qui va s'appeler la Anniversary Update, la mise à jour anniversaire de Windows. Alors vu son nom, on se doute qu'elle sortira à peu près fin juillet, hein. Pas trop loin de fin juillet quoi, 2016. Et c'est le nom officiel de ce qu'on appelait sous le manteau, sous le nom de Redstone. En gros. Donc il y a différentes choses. Alors je passe des choses qui sont plus développeurs ou qui concernent Cortana, tout ça. Bon, c'est pas nos sujets de prédilection.
Exactement.
Qui seront dans cette fameuse Anniversary Update.
Eh bien écoute, là, c'est bien, Pascal. On a... Alors. Et tant qu'on est sur la ligne de commande, ouais. Ce petit blog là.
Oui, un petit blog sur blogs.msdn.microsoft.com/commandline, donc un blog consacré à la ligne de commande sur Windows.
Qui du coup est vide pour l'instant.
Pour l'instant, il est vide. Donc ils l'ont annoncé. Espérons qu'ils nous donnent plein d'infos sur tout ce qui est ligne de commande sur Windows. C'est que c'est ma grande passion.
Ouais, c'est marrant parce que je crois me rappeler qu'il y a déjà fort longtemps.
Fort longtemps.
Toi, Pascal, en IT avéré et déjà très ouvert avant même que l'ouverture devienne naturelle chez Microsoft.
Ouais, mais ça fait des années. Tu
nous avais parlé de ça, je crois. Alors, rappelle-nous un petit peu ce qui s'est passé il y a quelques années.
Alors, ouais, j'ai publié un petit article en 2008 sur les façons de faire de la ligne de commande à distance dans Windows. Et parce qu'effectivement, le fait de ne pas avoir SSH sous Windows, c'est un truc qui me manquait un petit peu depuis des années et des années. Et c'est vrai que quand j'en parlais à des admins Windows ou des collègues qui travaillent uniquement sur Windows, ça ne leur parlait pas, quoi. Le fait d'avoir une ligne de commande qu'on exécute, avec laquelle on se connecte à distance sur une machine en ligne de commande, tout ça, ça ne parlait pas aux gens qui étaient purement Windows. C'est un truc qui a changé complètement et moi je dis tant mieux parce que je suis un grand fan des lignes de commande, je suis un grand fan des accès à distance depuis toujours. Il faut dire que je suis né au PC avec MS-DOS, hein, donc je connaissais MD depuis qu'il s'appelait commande.com en fait.
Ouais, et puis c'est une raison aussi, c'est que comme tu n'avais pas une connexion ADSL qui est fantastique,
oui, ben ça
c'est mieux pour toi de te connecter à distance en ligne de commande qu'avec du graphique, non?
Exactement. Voilà.
Parce que tu vois, nous les bourgeois, quand on a la fibre, on veut bien faire passer de la 3D dedans, on s'en moque.
Vous les citadins, ça vous gêne pas.
Exactement. Non, mais en fait, c'est vrai, j'avoue moi aussi de commencer à apprécier de plus en plus la ligne de commande. Ça paraissait bizarre à dire, mais.
Ouais.
Mais bon, voilà.
Et donc, il faut pas oublier qu'on a aussi annoncé quelque part que un serveur SSH serait inclus dans Windows Server 2016. Donc les deux ensemble, bah, je vous laisse imaginer, voilà quoi, on va pouvoir faire comme Windows, exactement comme on fait avec d'autres OS, que ce soit des Mac, des Linux ou autres. Ce qui fait que bah, dans ces environnements qui sont évidemment hétérogènes, où il y a de tous les systèmes, on va pouvoir utiliser exactement les mêmes méthodes quoi, pour administrer tous nos OS. Donc moi, je trouve ça plutôt sympa pour les admins qui ont des systèmes hétérogènes.
Et qui ont la ligne de commande.
Exactement. Mais bon, alors, en général, les admins Linux vivent dans Bash, quoi.
D'accord.
En général. Nos admins Windows commencent à vivre un petit peu dans PowerShell. Donc les deux vont bien cohabiter. Depuis PowerShell, on pourra se connecter en SSH à une machine Linux, et puis réciproquement, enfin, voilà, quoi. Et puis le fait d'avoir deux shells, un shell PowerShell et puis un shell Bash, bah, ça permet de faire des choses intéressantes.
Ouais, ouais. Eh bien, écoute, après avoir voilà. Un petit peu parlé du, du poste client et de l'arrivée de Bash dans Windows 10, je te propose de basculer du côté des nuages et de refaire un petit topo un petit peu de ce qui s'est passé ces deux dernières semaines du côté de l'Azure.
Alors, qu'est-ce qu'on a du côté du stockage dans Azure, d'ailleurs, d'abord ?
Alors ça, c'est une demande que j'ai assez régulièrement quand je vais voir des clients. Alors, je choisis plutôt des clients grands comptes, parce qu'ils se posent des questions, justement. Ils sont un petit peu moins agiles, ou foufou, choisis le terme que tu veux, que des startups sur ces sujets-là. C'est la grosse question de la confidentialité des données qui sont stockées dans les stockages d'Azure. Donc tu sais que le stockage d'Azure, donc tout ce qui est blob, file, etc., l'accès à l'information est protégé hein, par des clés d'accès, hein, des jetons. Mais en tant que tel, aujourd'hui, il n'y avait pas de chiffrement at rest des données qui étaient dans ces services de stockage.
D'accord.
Ce qui, du coup, naturellement, impliquait des questions. Alors certes, quand tu fais une machine virtuelle, tu peux chiffrer à l'intérieur, tu peux faire des choses, etc., mais le stockage d'une donnée, entre guillemets, brute dans un blob, comme ça, n'était pas chiffré. Donc, on a annoncé le service Storage Service Encryption for Data at Rest, dans un anglais absolument parfait, hein, qui est donc effectivement un service, enfin une fonctionnalité de chiffrement de ces données qui sont stockées dans les stockages d'Azure. C'est actuellement, donc c'est annoncé la preview, donc la version préliminaire, pour après ben, une version disponible un peu plus tard, suite effectivement au retour des premiers usages. Donc ça va régler cette problématique de dire, voilà, ce qui est stocké dans les blobs ou dans les queues, etc., est-ce que c'est stocké à rest? La réponse désormais pourrait être oui. Ça, c'était la première nouvelle.
D'accord. Et juste pour, pardon, excuse-moi, ouais. Stanislas, pour préciser, donc ça n'a rien à voir avec le Azure Disk Encryption for Windows and Linux YAS VMs, c'est-à-dire le chiffrement des disques à l'intérieur, cette fois-ci, des disques virtuels de nos machines virtuelles. Hein. C'était ça, c'était du BitLocker et du...
Exactement, et du DMcrypt pour la partie Linux.
Donc là, on va stocker...
Je crois que ça avait été annoncé, ça, il y a deux semaines ou un mois à peu près, la disponibilité grand public généralement disponible pour tout le monde. C'est pas facile à dire. Donc effectivement, ça c'est le Azure Disk Encryption, c'est vraiment pour des mécanismes de chiffrement des disques durs virtuels, et c'est des mécanismes gérés par les VM. Donc en BitLocker ou DMcrypt, comme tu l'as dit. Donc là, non, on est vraiment sur le stockage de type blob.
Donc le stockage du support en dessous, en fait.
Ouais, exactement, c'est ça. Donc quand tu as des applications qui vont chercher des données dans les stockages d'Azure, par exemple, et ben ce stockage d'Azure qui est pas un disque dur virtuel sous la forme de blob, par exemple, et ben du coup maintenant ce sera chiffré. C'est une vraie demande. Hein. Donc c'est
excellent.
Alors tiens, pour faire le petit rebond encore sur tout à l'heure on parlait de Linux. Et on a également de généralement disponible en version finalisée de tout ce qui est Azure Batch pour Linux. Donc l'idée en fait c'est de pouvoir manager et de lancer des batchs sur plusieurs dizaines, centaines, milliers de VM sans avoir à gérer forcément toute l'infrastructure derrière. Et donc là, on a le support désormais de Linux pour ces trucs-là. Donc ça permet de paralléliser, par exemple, plusieurs VM qui font du HPC, par exemple, sur le sujet. Voilà. Donc là, on l'avait déjà sous Windows, on l'a désormais pour Linux également.
C'est pour du calcul, hein, c'est ça, du calcul massif, parallèle
Oui, c'est ça, c'est du lancement de traitement, mais à l'échelle de effectivement, plusieurs centaines ou milliers de VM. L'idée, c'est de gérer de manière centralisée, sans avoir à recréer une infrastructure management. Donc, on a des outils pour ça, en fait.
Cool. Après, donc, ça, c'était donc du Azure.
Alors, toujours dans Azure, dans les services qui arrivent et qui sont disponibles en version finale, on a ce qu'on appelle les VM Scale Set. Alors, ça, c'est très très intéressant. Les VM Scale Set, ça permet de construire en fait des applications hautement scalables utilisant des machines virtuelles. Et l'idée en fait, c'est de pouvoir faire grossir des fermes de machines qui sont donc par définition identiques. Hein. Donc ça peut être des serveurs web, ça peut être des back-ends, ça peut être enfin plein de choses. Hein. Et l'idée effectivement, c'est donc ce VM Scale Set est intégré avec les mécanismes de load balancing d'Azure. ça supporte des machines Windows ou des machines Linux ou des images personnalisées que vous aurez pu faire avec des extensions. Et l'idée, en fait, c'est qu'en fonction de métriques à donner, une métrique qui va être basée sur le temps, le CPU ou autre, automatiquement, il y a un mécanisme qui va rajouter ou supprimer des instances. Récemment, on en parlera à la fin, mais avec une personne d'Alterway, Hervé Leclerc, il a fait une démonstration chez Microsoft d'une ferme en fait de bases de données distribuées qui s'appelle Krat, et d'utiliser donc les VM Scale Set pour faire ça. Donc, c'est-à-dire que de base, tu avais un cluster de 2 ou 3 VM, et puis ensuite, il stressait en fait les VM. Donc le CPU était au maximum et automatiquement le mécanisme VM Scale Set en fait déclenchait en fait l'instanciation de nouvelles machines virtuelles, l'autoconfiguration également du load balancer devant pour pouvoir bien répartir sur ces VM. Et puis donc c'est du scale out, donc l'ajout de machines, mais c'est capable également d'aller en descendant, de déprovisionner. Donc là on est vraiment dans des notions d'élasticité qui sont vraiment propres au cloud. Donc c'est pour faire ces fameuses VM Scale Set, en fait, il faut les définir et les déployer par des deux options en fait, soit les templates JSON, donc les modèles ARM d'Azure, soit directement avec les API REST. Et puis voilà. Donc il y a des modèles pour ça sur lesquels on peut s'inspirer si on veut faire ses propres choses. Donc ça va faire du voilà l'agrandissement et la réduction de choses. Donc voilà, les scénarios sont assez multiples, hein, mais l'idée, je pense, c'est vraiment de se dire si j'ai une application qui tourne aujourd'hui sous la forme de machine virtuelle, que je veux pouvoir agrandir ou réduire la puissance en fonction de mes besoins. Techniquement, c'est le faire. Et tu vois, quand on était dans la version public preview, on s'était mis une limitation, à 500 machines virtuelles maximum. Un instant T dans un VM Scale Set. Et là, du coup, on a dû lever les limitations, si je dis pas de bêtises, pour en avoir un petit peu plus. Donc, ça veut dire que désormais, ouais, on doit pouvoir. Ouais, je sais pas si on a augmenté la valeur, en fait, mais c'était dans les limites, on était à 500 VM par Scale Set, par région. Et donc, si on utilisait des images de la galerie, on pouvait mettre 100 images dans un scale set. Et puis 40 si on utilisait ses propres distributions custom. Voilà. Donc, super, super intéressant. C'est pour ceux qui veulent, entre guillemets, bénéficier de choses telles qu'on peut avoir dans le pass d'Azure où ça gère automatiquement le scale-out. Sauf que là, on le fait à l'échelle de systèmes qu'on a configurés avec des API à l'intérieur.
Cool. Il y a encore quelque chose au niveau de autoscale, c'est ça?
Autoscale.
Azure Alert.
Ah oui, alors ça, c'est l'annonce est assez récente. Elle date d'hier en fait. On a fait quelques petites nouvelles fonctionnalités sur ce qui s'appelle Azure Alert et autoscale. En fait, on avait introduit des webhooks pour les alertes Azure qui étaient basées sur des métriques. Ça, c'était l'automne dernier, si je dis pas de bêtises. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir notifier, d'activer des notifications personnalisées, déclencher des actions sur ces alertes, en fait. Et ça, globalement, les gens ont plutôt apprécié ce type de fonctionnalité. Et donc, en fait, sur les événements de type autoscale, les gens voulaient être notifiés, enfin, même si c'était géré de manière automatique, ils voulaient quand même pouvoir être notifiés par email, choses comme ça. Donc ça, on a rajouté ces services-là à l'intérieur. Et puis, on a rajouté également la notion de pouvoir faire des alertes sur des événements qui ont lieu et qui sont enregistrés dans les event log, dans l'audit log, pardon, de Azure. C'est-à-dire que dans Azure, chaque fois que tu fais une action, normalement, l'action est traquée dans la zone audit. Oui. D'Azure qu'on peut visualiser, qu'on peut filtrer, etc. Et là désormais en fait on a une preview, donc une fonctionnalité preview qui permet en fait de déclencher une alerte sur des événements donnés. Si tu sais quel type d'événement t'intéresse particulièrement sur lequel tu veux être alerté, tu peux le faire. Alors ça se fait aujourd'hui, c'est encore en preview, donc ça se paramètre en Azure PowerShell ou avec l'Azure CLI si on est sur du Mac, du Linux ou autre. On a également la possibilité de faire des alertes et des emails sur des métriques personnalisées ou sur des tests web également. Donc des tests qui ne se passeraient pas bien, on pourra déclencher des choses là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? A priori, on a également fait une intégration avec un système qui s'appelle PagerDuty. Je ne suis pas un spécialiste, mais d'après ce que j'en ai compris, c'est un service non Microsoft qui est assez employé pour faire après de la diffusion de notifications d'alerte via du SMS, de la voix, des choses D'accord. comme ça. Donc là-dessus, on a fait l'annonce entre guillemets d'une intégration d'Azure avec ces solutions-là. Et puis également, on a en version préliminaire l'intégration en fait de Runbook Azure Automation basée sur des alertes en fait. Mmh. Quand tu vas rajouter une règle d'alerte. Tu peux déclencher un runbook d'automation pardon, sur cette alerte. Donc ça peut être par exemple redémarrer la VM, la supprimer, la stopper, enfin voilà, tu vois. Mm. Donc l'idée c'est ça. Donc c'est vraiment de pouvoir déclencher des tâches communes de redémarrage, arrêt, démarrage de VM basé sur encore une métrique en fait, un trigger.
Ok.
Et puis, ça c'est cool, ça aussi.
Ouais, c'est une nouvelle excellente, ça, que beaucoup de monde attendait, je pense, hein, depuis qu'on
le resizing des VM en vertical, c'est ça ?
Ah non, je pensais à la nouvelle d'après, mais vas-y.
D'accord, alors, donc également, toujours dans les choses assez intéressantes qui arrivent, qui est une demande assez forte, c'est de pouvoir redimensionner la taille d'une VM, en fait, en fonction, effectivement, d'alerte ou de script d'automatisation. Hein. Ah. Et là, effectivement, c'est pareil. C'est donc vraiment d'industrialiser et pas faire du scale-out en rejetant des instances, mais simplement dire à un moment, peut-être que je travaille avec des A4 ou avec des A5, et j'ai peut-être besoin que d'une A1 parce que vraiment là, j'ai une sous-utilisation de mon CPU. Il est à moins de 2% hein, depuis longtemps. Et donc, on a une fonctionnalité qui va permettre effectivement de déclencher un resizing de la VM en plus bas.
Donc, de faire du scale down. C'est ça ?
Du scale down, exactement. Du scale down ou du scale up, hein, parce que le resizing va dans les deux sens. Mais l'idée, c'est ça. Donc ça peut être intéressant pour des applications qui ne savent pas bien rescaler, mais qu'il faut quand même qu'elles soient redondées. Hein, parce que forcément, il y aura une petite interruption de service, probablement. Je ne l'ai pas testé, mais ça me paraît très logique. Mmh. Et puis voilà. Alors, quelle était la nouvelle
La prochaine, elle va concerner tous les gens qui sont comme moi et qui parlent pas de JSON dans le texte. Tout le monde parle des modèles ARM écrits en JSON, hein, c'est absolument génial, ça décrit une infra dans l'esprit infrastructure as code, tout ça c'est génial. Mais écrire du JSON à la main, c'est pas génial, donc on récupère des modèles, tout ça. Et puis, donc maintenant, on a une nouvelle méthode pour faire nos templates ARM.
Ouais, qui vient juste d'arriver en version préliminaire. Mm. Qu'on peut voir, si je dis pas de bêtises, qu'on peut faire en PowerShell ou en Azure Cli, je crois, et qu'on peut également faire depuis l'interface graphique du portail, le moderne, hein, pas l'ancien.
Mm. Le dernier.
Voilà, le dernier. Donc bah, l'idée, effectivement, c'est qu'on est sur une ressource ou un groupe de ressources, on a une zone qui s'appelle Export Template, et qui est censé effectivement analyser le ressource group, ce qu'il y a à l'intérieur, et en générer en fait le template JSON. Alors on est d'accord, hein, ça va générer un template qui sera adapté par rapport à un truc, peut-être un petit peu après de customisation à faire, mais globalement ça permet de prendre une infra ou un groupe de ressources existantes, et de générer à partir de là directement en fait le template JSON associé, et après de le réutiliser pour le redéployer dans un autre déploiement, etc. Ouais, donc c'est plutôt assez intéressant, d'autant plus que d'après ce que j'ai vu, on aurait également une notion de deployment history disponible pour les groupes de ressources, et qui permettrait du coup de versionner un petit peu les différents déploiements qu'on va pouvoir faire, les différents templates en fonction des différents déploiements.
Ah.
Et chun, hein, ça.
Ouais, très chun.
Donc voilà, là ça vient d'arriver, c'est du tout frais pêché, hein, c'est annoncé il y a deux jours, hein, le 30 mars. Mais c'est clair que c'est un très très grand pas en avant pour la généralisation de tout ce qui est ARM et puis l'industrialisation entre guillemets, sans pour autant mettre tout de suite les mains dans le cambouis directement. Vraiment, vraiment, vraiment une très très bonne, très très bonne chose.
Et enfin, au niveau sécurité, je crois qu'on a encore une nouvelle certification, c'est ça ?
Et oui, tu sais, dans la série des médailles. Alors les certifications, ça sert à quoi pour les services de cloud, etc. Bah, simplement à garantir un certain sérieux de la gestion des services, et puis à éviter effectivement qu'une entreprise, quand elle veut devenir cliente de tel ou tel fournisseur, elle n'ait pas envoyé ses propres auditeurs, parce que par définition, les data centers ne sont pas des musées à ciel ouvert, où tout le monde peut venir visiter, et si chacun envoyait ses auditeurs, ce serait l'enfer. Donc là, cette certification, là, elle s'appelle celle-ci la Cloud Security Mark, attention, Gold Accreditation. Donc là, en fait, c'est ça a été fait en cette certification a été faite avec le JASA. Alors le JASA, c'est le Japan Information Security Audit Association, et également le ministre de l'économie, du coup japonaise probablement. Le métier. Et donc cette certification elle est basée en fait sur les standards ISO IEC 27017 que les plus férus d'entre nous connaissent certainement. Et donc voilà, donc c'est l'accréditation elle a été faite ici pour la partie infrastructure de services d'Azure, pour la partie placement de services d'Azure et pour la partie Office 365 donc du SaaS. Là encore, tu nous mettras les liens avec le podcast pour les informations complémentaires et le détail de tout le périmètre qui est compris dans le cadre de cette certification. Parce qu'effectivement, une certification n'est valable que à l'échelle d'un périmètre, donc c'est important de voir ce que ça contient.
Notamment, précisons que tout ce qui concerne les certifications de sécurité et tout ça, on va trouver ça sur... on a tout regroupé en fait dans un Trust Center. Avant, il y en avait un pour Azure, un pour Office 365, etc. Microsoft.com/trustcenter, et là, on trouve toutes les informations sur les certifications de sécurité. C'est super important pour tous nos services de cloud.
Exactement. Donc, on a bien tourné là sur la partie cloud. Je regarde si on a d'autres choses sur la partie
côté cloud. Je rajouterai un petit truc côté SaaS, notamment côté Intune, côté management. On a annoncé il y a très longtemps qu'il y aurait un Windows Store for Business, ce qu'on appelait au début le Business Store pour Windows 10. Donc cette chose-là est en ligne, le Windows Store for Business. Mais en même temps, ce qui vient d'être activé côté Intune, c'est le lien donc entre Intune, donc le MDM, et le Windows Store for Business. Ça veut dire quoi ce lien ? Ça veut dire que on va pouvoir synchroniser dans Intune les metadata des applications qu'on aura achetées dans le Windows Store for Business. Et donc, vous pourrez déployer via votre MDM, via Intune, vos applications que vous avez achetées en licence au volume, par exemple, dans le Windows Store for Business. Donc, des vrais scénarios d'entreprise, depuis l'acte d'achat de licence au volume, avec des vrais moyens de paiement d'entreprise et tout ça, jusqu'au déploiement et la gestion et le suivi des licences par Intune. Donc, ça vient de sortir. Moi, je l'ai vu apparaître dans mon Intune de démo cette semaine, ce lien-là.
D'accord, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Tant qu'on est sur des services un peu packagés, plus ou moins en relation avec Azure aussi, enfin même carrément en relation, mais ça concerne un petit peu. Il y a également tout ce qui est Operation Management Suite Logs Analytics, qui s'appelle également Azure Logs Analytics. Donc là, on a une public preview en fait de la partie Security and Audit Solution. Donc ça permet de faire du forensic, de l'enquête, de l'analyse et de la recherche de patterns, de breach pattern investigation, comment on appelle, pourrait-on dire ça
De la reconnaissance de, comment dire, d'intrusion.
D'intrusion, voilà, de corruption.
Par des schémas comportementaux, quoi, des choses comme ça.
Oui, c'est ça. Et donc, donc c'est utile pour tout ce qui est audit, hein, vous l'avez compris. Donc l'idée, c'est que en fait, ça va permettre de faire du drill down, de descendre et de faire de la recherche sur tout ce qui concerne la sécurité. Donc, ça veut dire les journaux de sécurité, tout ce qui est audit, tout ce qui est log de firewall, tout ce qui est événement lié à Plocker qui permet de contrôler l'usage des applications sur les postes, etc. etc. Mmh. En gros, toutes les données collectées comme ça, on a un pack d'intelligence qui va permettre effectivement de visualiser très clairement ce qui s'est passé au niveau de ces événements et de descendre très rapidement. Donc plutôt d'avoir plein de machines avec plein de journaux répartis, en fait l'idée de Log Analytics c'est de consolider tout ça et après de fournir des interfaces pour rechercher et cibler beaucoup plus certains types d'événements, etc. On y combine bien entendu derrière du machine learning et d'autres choses, et ça permet effectivement de gagner du temps en fait, tout simplement.
Cool. Alors,
petit tour du côté des containers, il y a plein de trucs du côté des containers là, qui vont se passer, Pascal.
Ouais. Donc des choses qui nous concernent nous, des choses qui concernent Docker et des choses qui concernent tous les deux. Donc un nouveau Docker Machine for Azure. Docker Machine, donc si vous ne connaissez pas, c'est un outil Docker qui est fourni avec Docker Toolbox notamment, qui vous permet de gérer différents hôtes, différents moteurs de Docker sur différents serveurs locaux ou distants. Par exemple, c'est avec Docker Machine que vous allez pouvoir générer de façon très simple des machines virtuelles locales pour héberger votre Docker Engine sur des machines qui ne soient pas des machines Linux, par exemple sur les Mac ou sur Windows. Ça va vous installer par exemple, comment s'appelle-t-il déjà, VirtualBox comme moteur de virtualisation, et puis vous générez dedans la machine virtuelle boot to Docker qui va bien pour exécuter Docker. Ça vous permet également de gérer vos serveurs Docker à distance, par exemple, créer des machines virtuelles hébergeant Docker dans AWS, par exemple, et puis là, dans Azure. Donc c'est ce qu'on appelle un driver pour Azure, dans le vocabulaire de Docker Machine, pour aller directement générer et gérer vos machines Docker dans Azure. D'accord ? Donc ça vous permet de gérer ces machines virtuelles-là, de connecter votre client Docker à ces machines virtuelles également, de façon à ce que vous utilisez directement votre ligne de commande Docker pour gérer vos containers Docker qui sont sur votre machine virtuelle dans Azure. Ensuite, un sujet très connexe, c'est la bêta de Docker for Mac et Docker for Windows. Je parlais de VirtualBox, donc le but du jeu, c'est de virer VirtualBox de nos machines, de nos PC et de nos Mac. Ce qui sera une bonne nouvelle pour beaucoup, en tout cas pour moi. Quand j'utilise moi personnellement Docker Machine et Docker sur un Mac, j'utilise pas le driver VirtualBox qui est utilisé par défaut, mais je force l'utilisation d'un driver VMware Fusion parce qu'il se trouve que j'utilise la virtualisation VMware Fusion sur un Mac. Sur un Windows, j'ai fait la même chose pour forcer l'utilisation de Hyper-V. C'est tout à fait possible aujourd'hui en l'état actuel de Docker Machine. Donc, vous pouvez créer vos machines virtuelles Docker dans Hyper-V. Ensuite, Docker prépare, donc, et c'est en bêta aujourd'hui, une nouvelle version de Docker for Windows et Docker for Mac qui va vous installer, quand ça sera sur un Mac, ça va vous installer un moteur de virtualisation, un hyperviseur, dont je crois qu'il s'appelle Xhive, avec un Y, si je me souviens bien. Je ne vais pas dire de bêtises. Et sur Windows, ça va utiliser directement Hyper-V de façon native. Donc on fait l'économie de VirtualBox, ce qui est plutôt pas mal de limiter le nombre d'hyperviseurs sur nos machines. Alors ça n'empêche pas que Docker Machine reste d'actualité quand même, justement pour le fait que Docker Machine va vous permettre de gérer vos hôtes Docker à distance, notamment dans Azure. Donc beta.docker.com pour ceux qui veulent s'enregistrer pour accéder à la bêta, qui est pour l'instant une bêta très limitée de Docker for Windows notamment.
Alors du coup, autant qu'on est dans Docker, Pascal, on pourrait faire un peu de PowerShell.
Bah oui, parce que n'oublions pas PowerShell, là, on dirait qu'on n'en parle plus de ce pauvre PowerShell là, depuis qu'on parle de Bash et tout ça. Non, PowerShell est toujours là. Et donc on a annoncé la mise à disposition prochaine de... Ou courante d'ailleurs, c'est sorti ou c'est pas sorti d'ailleurs ?
Ah, je crois que ça va sortir.
Ça va sortir. Donc de PowerShell for Docker, c'est-à-dire un module PowerShell pour gérer Docker. Donc on va pouvoir utiliser PowerShell comme client Docker pour aller gérer nos containers sur notre Docker Engine en local ou à distance. Donc ce qui est plutôt sympa pour avoir des scripts PowerShell. Je sais pas si on en sait plus.
Non, j'ai vérifié, c'est pas encore disponible.
D'accord,
mais
c'est pas encore disponible. Mais voilà, c'est une bonne idée quand même.
Ouais. Alors tant qu'on est sur Docker, un sujet relativement assez connexe, donc qui est là un vrai sujet d'actualité, je dirais également business.
Alors parlons gros sous, Stanislas.
Oui, enfin gros sous, c'est tout de suite. c'est annoncé que Microsoft et HP Enterprise, donc je rappelle que HP a été séparé en deux entités, hein, une grand public et une entreprise qui s'appelle HPE. Les deux entreprises ont injecté 73,5 millions de dollars dans une société qui s'appelle Mesosphere. Donc Mesosphere, tu le sais, hein, c'est une société qui est spécialisée dans la gestion de clusters, qui est une société qui a été cofondée par plusieurs personnes, dont Florent Lieber, Toby et Knop, etc. Et ce sont tous des personnes en fait qui sont également des très forts contributeurs, voire créateurs d'outils tels que Mesos, Marathon ou encore Kronos. Kronos étant un remplacement de Cron, mais distribué. Et donc en fait, cette société fait une ils ont monté une start-up, hein, comme tout le monde. La start-up a levé pas mal d'argent. Elle est utilisée par pas mal d'entreprises comme Twitter, Netflix, etc. Et en fait, c'est une sorte de gestionnaire de cluster open source basé sur donc différents technos. Hein, je l'ai dit, hein, Mesos, Marathon, Kronos, etc.
Rassemblés sous le nom générique de DCOS, c'est ça, hein ?
Exactement, ouais. DCOS étant l'acronyme de Data Center Operating System. Donc voilà, l'idée c'est de gérer en fait des centaines voire des milliers de machines comme une seule entre guillemets. Donc ça rappellera à ceux qui font déjà du Docker des choses comme Swarm, etc. Sauf que Mesosphere en fait n'est pas limité uniquement à de la gestion de containers, mais le fait très bien. Donc ils peuvent également gérer d'autres workloads que du container Docker. Voilà. Et donc ben on a pas mal investi là-dessus, 73 millions de dollars. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que donc DCOS actuellement est en phase bêta, si je dis pas de bêtises, prochainement terminée pour Azure, d'accord. Et donc en fait c'est un élément en fait de notre service Azure Container Service ACS qu'on a dans Azure. Donc dans Azure en fait on a ce futur service, il n'est pas encore finalisé, qui va permettre de gérer de manière simplifiée des clusters de containers Docker. Et en sous-jacent derrière en fait la gestion de la fabrique et tout ça dessous et de la répartition des ressources au sein du cluster sera fait par des COS. Du coup, tu comprends pourquoi on a investi dans la boîte, vu qu'on utilise la technologie.
Entre nous, je crois que c'est moins cher qu'un clavier Android. Hein.
Oui. Je n'entrerai pas dans ce débat-là si tu fais référence au rachat du clavier SwiftKey.
Un épisode plus ancien du podcast.
Exactement. Mais bon, Mesosphere, là, ils sont bien. Ils sont bien dans la bonne vague de la bonne tendance, là, parce que... Aujourd'hui, quand tu parles de cloud, de containerisation, de microservices, c'est ce qu'ils font en fait. Hein. Enfin, ils servent à gérer et industrialiser ce type d'architecture. D'où qu'on comprend que c'est hyper important. Donc, j'ai dit que ça allait arriver sur. Donc, ce sera la base du service Azure Container Service. Ce qui est intéressant à savoir également, c'est que on devrait avoir également DCOS qui devrait tourner prochainement également sur Windows Server. Grâce justement au partenariat qu'on a entre les deux sociétés. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on devrait avoir Mesos qui devrait arriver sur Windows Server. Ce qui est pas mal, ça permettra de gérer des clusters de microservices ou d'applicatifs qui tournent sur du Windows Server.
Donc voilà. Des clusters de Windows Server 2016 exécutant des containers Windows.
Par exemple. Mais pas obligatoirement, mais par exemple, oui.
Ce qui nous fait une belle transition.
Exact, Pascal. Magnifique transition vers la suite.
Ouais, donc transition vers Stan des containers Hyper-V, donc qui sont une des deux sortes des containers Windows,
ouais.
qui vont arriver sur Windows 10 pour nos développeurs qui développent des applications serveurs.
Oui, précisons bien, pour nos développeurs qui développent des applications serveurs sur Windows.
Donc, c'est-à-dire qu'on aura sur Windows 10 la possibilité de faire tourner des containers Hyper-V, donc exécutant nano server ou server core.
Les deux, je pense, à mon avis, probablement. Mmh. Étant donné que c'est les deux bases en fait pour faire du container Windows Server 2016 et d'Hyper-V container. Bah donc du coup là, on comprend bien pourquoi on amène ça sur Windows client. C'est que bah, les développeurs, ils développent en général sur des OS clients. Et donc, hop, rapidement, ils créeront leur application, ils la déploieront depuis leur Visual Studio dans leur container Hyper-V, sur localement exécuté dans leur machine virtuelle. Et puis si c'est bon, bah, après, ils n'auront plus qu'à builder l'image, à la pousser dans une Trusted Registry, ou dans un dépôt. Et puis à partir de là, bah, quand le code sera validé dans le dépôt, il pourra être déployé de manière automatisée, de manière plus ou moins automatisée, directement en production ou en pré-production sur les serveurs Windows. Donc le point important, je pense, à retenir ici, hein, t'es d'accord avec moi, c'est qu'on parle bien ici d'applications exécutées dans des containers Hyper-V, donc sur base Windows. Donc on n'est pas sur des containers LXC qui sont donc sur base Linux.
Oui, oui. Donc sur Windows, on ne peut faire tourner que des containers Windows. Et pourquoi Hyper-V container? C'est parce que sur Windows, les containers déjà, les containers, ça concerne forcément des applications de type serveur qui n'ont avec le monde extérieur qu'une interaction au réseau. Ce ne sont pas des choses graphiques avec une interface graphique, etc. Donc ce sont des applications serveurs. Donc c'est a priori une image, soit nano-serveur, soit serveur core qui va tourner dedans. Et comme on n'est pas sur ce type d'OS, puisqu'on est sur un OS client, donc il y a quand même quelques petites différences entre les deux noyaux. C'est un petit peu normal. Enfin, je conçois bien que qu'on parle là de containers Hyper-V, donc avec un niveau d'isolation supérieur que les containers Windows de base, qui partagent là pour le coup exactement les mêmes noyaux.
Bien sûr. Et comme en plus on a Hyper-V sur Windows 10, du coup c'était plus simple effectivement de prendre ça directement.
Tout à fait. Donc ben voilà, tout ça s'emboîte parfaitement, hein, cette histoire de containers. Plein de scénarios possibles entre les containers Linux à distance, les containers Windows en local, l'API Docker, etc. On peut faire tout ce qu'on peut imaginer. Donc voilà. Je crois qu'on a terminé avec les annonces, les actualités un petit peu produits, techniques, etc. Il nous reste à conclure avec l'actualité locale, à savoir Microsoft Experience. Expérience au pluriel, qui est le nouveau nom de ce qui s'appelait avant les Tech Days, qu'on a appelé brièvement les Tech Days Online. Donc Microsoft Experience, hein, vous le savez, ça va être un événement au Palais des Congrès début octobre 2016, sur 2 jours si je ne m'abuse. Il y a eu un événement de lancement donc le 16 mars à Issy-les-Moulineaux chez nous, mais surtout retransmis sur le live sur Internet, sur le web. Les chiffres sont pas mal. Je crois qu'on a eu à peu près 20 000 vues, visiteurs uniques, du live de cet événement. Donc c'est plutôt sympa. Donc merci à vous d'avoir suivi cet événement. Donc vous nous avez vu faire différentes démos assez originales, très ouverte sur des produits pas forcément que Microsoft, donc c'était plutôt sympa. Ça a été suivi le lendemain, enfin l'après-midi déjà, par des conférences qui n'ont pas été retransmises en direct, je crois, ou même pas enregistrées, hein, Stan, ça n'a pas été enregistré.
Non.
Dommage, parce que c'était intéressant.
Il fallait être présent.
Y a eu des choses sur Linux dans Azure, notamment, à laquelle tu as participé beaucoup.
Oui, brièvement, j'étais accompagné d'Hervé Leclerc, qui est le CTO d'Alterway. Et effectivement, il a présenté, il a fait une session de 2 heures sur Linux dans Azure, avec notamment cette fameuse utilisation avec des templates de VM Scale 7, avec des bases de données distribuées de type CRAT sur Linux. Assez intéressant. Et l'Ansible, il a fait pas mal d'Ansible également.
Ouais.
Très DevOps, ça, comme approche.
Il y avait également une session de 2 heures par des deux personnes de chez Docker pour une introduction au container et à Docker. Uh-huh. Et il y a eu d'autres sessions développeurs en même temps. Il y a eu du Xamarin, etc.
Ouais. Et donc, on mettra le lien pour comment en fait on fait plein d'autres vidéos sur cette plateforme en attendant l'événement physique de début octobre. Eh bien, vous pourrez aller faire un tour sur expérience avec un S et sans accent .microsoft.fr.
Voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos qui sont déjà publiées. Il y en a plein qui arrivent. Tout à l'heure, je parlais du Business Store de Windows 10 là, avec Intune. J'ai tourné cette semaine une vidéo sur le sujet, donc il sera en ligne d'ici peu. Tu en as fait plein également, Stan.
Côté beaucoup cloud. Beaucoup sur le cloud. Donc orienté infrastructure, alors public ou hybride avec Azure Stack. On a également fait des choses avec des partenaires, des retours d'expérience. Donc c'est sur le coup d'aller faire un tour.
Pas mal sur la sécurité également, qu'elle en a participé, enfin, vraiment beaucoup. Et puis ça ne va pas s'arrêter, c'est-à-dire qu'on va alimenter ça jusqu'en octobre pour les fameux événements physiques qui auraient lieu début octobre. À part ça, ben voilà, je crois qu'on a fait le tour, Stan, pour ce 1er avril. C'est déjà pas mal.
Ouais, et on n'a fait aucune blague à l'intérieur.
Non, parce que c'était pas la peine. Il y avait assez d'originalité dans...
C'est vrai.
Dans les news.
Donc, ça aurait pu. Donc voilà. Donc là, j'attends avec impatience de voir les meilleurs poissons d'avril.
Ouais, il y en a eu déjà un chez Corben sur Ubuntu qui annonce le support de Windows dans Ubuntu.
Ouais.
Bon, c'est gentil.
Moi, ce que je préfère en fait en général le 1er avril, c'est les RFC de l'IETF.
Ah oui!
Il y a toujours des super RFC, notamment une il y a quelques années qui était sur l'utilisation de paquets UDP transportés par pigeons voyageurs. pour des réseaux à faible latence. Je trouvais ça assez rigolo. Donc chaque année, ils en font. Donc j'attends avec impatience de voir quels sont les RFC de l'année. Mais je pense qu'en avis, du point de vue poisson d'avril, on devrait recevoir quelques-uns d'assez intéressants long toute la journée. On vous en a pas fait parce que on n'y a pas pensé, tout simplement. je crois qu'il y a Google qui ont fait un truc également sous la réalité virtuelle avec le cardboard...
C'est donc, quoi, c'est un cardboard en plastique ou un truc comme ça?
Ouais, c'est ça. Ouais.
merci Stan, bon week-end. Et puis bon week-end à tous. Ouais, bon week-end à tous et à très bientôt. Au revoir.